I'm a fan of Denmark, too. But, you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand le Groenland est-il convoité? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec le spécialiste de la géopolitique des régions polaires, Mikko Blujon-Mered. Aujourd'hui, troisième épisode, la colonisation danoise. Au début du XVIIIe siècle, un certain Hans Egede, pasteur danois, luthérien bien sûr, se met en tête de monter une expédition au Groenland. Cela fait près de 300 ans que les Norvégiens et les Danois sont sans nouvelles des Vikings qui se sont installés au Groenland autour de l'an 1000. Et deux siècles après la réforme, les luthériens s'inquiètent que ces lointains cousins soient demeurés de dangereux papistes ou bien revenus au paganisme. L'objectif du pasteur Egede est donc d'y apporter le protestantisme. Les derniers témoignages reçus de ces colons vikings sont des lettres au nombre de 3 seulement, écrites au début du XVe siècle. Elles parlent d'un mariage et d'un bûcher de sorcières sympathique. Et depuis, plus rien, silence. De quoi en effet enflammer les imaginations? Que sont devenus les vikings du Groenland?
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Hans Egede, comme Éric le Rouge, a un motif moins noble pour partir. Il vient de perdre un procès suite à un conflit. Ce voyage est l'occasion de tourner la page. Mais le projet est hasardeux. Hans Egede réussit non sans mal à monter son expédition et le 2 mai 1721, à Bergen, en Norvège, il embarque sur 3 vaisseaux avec sa femme Gertrude, ses 4 enfants et 46 membres d'équipage. Arrivé à proximité du Groenland, impossible d'accoster à cause de la tempête et des icebergs. Ils atteignent finalement la côte ouest, le 3 juillet, et fondent la colonie de Godthåb, Bonne Espérance en danois, qui deviendra la capitale actuelle, Nuuk. 1721, c'est donc le début de la colonisation danoise du Groenland. Première constatation, les vikings ont disparu corps et biens. Quand Hans Egede demande ce qui leur est arrivé, les Inuits haussent les épaules. Comprenez, ils sont partis il y a longtemps. Au début, les Danois sont plutôt bien accueillis par les Inuits, qui les aident même à construire leur maison. Mais les relations se tendent quand ils comprennent que les nouveaux venus ne sont pas que de passage qu'ils ont l'intention de s'installer. De son côté, Hans Egede est rebuté par ces Inuits qui parlent une langue incompréhensible et semblent si peu intéressés par la religion luthérienne. « Ce sont des gens aussi stupides que des bêtes », décrète le pasteur, qui doit faire face en plus à l'hostilité des sorciers Inuits, les Angakok. Pour Egede, un des principaux obstacles à la conversion des Inuits est leur nomadisme. Pour les sédentariser, il va introduire l'agriculture et le bétail, mais aussi tenter de scolariser les enfants inuits, qui, eux, je cite, « sont encore innocents de tout vice et de tout péché ». Après la mort de Hans Egede en 1758, son fils, puis son petit-fils, soutenu par le gouvernement danois, poursuivent son œuvre d'évangélisation et de colonisation, qui finit par porter ses fruits. Le Groenland n'a pas cessé depuis d'être une possession danoise, et aujourd'hui, plus de 90% des Groenlandais appartiennent à l'Église luthérienne.
Je pense que la statue devrait rester là où elle est, parce qu'elle symbolise quelque chose de bon dans le christianisme auquel je crois, et auquel beaucoup de Groenlandais croient. Hans Egede fait partie de notre histoire.
Hans Egede nous méprise symboliquement.
Je pense que pour beaucoup de jeunes gens, la partie n'est pas finie. Le débat a été lancé et un vote acté. Mais d'ici quelques années, il sera de nouveau à l'ordre du jour.
Mikko Blujon-Mered, le 21 juin 2020, la statue de Hans Egede qui domine la capitale, Nuuk, a été taguée, ce qui a amené à organiser un référendum sur le maintien ou non de cette statue. Au-delà du symbole, quels ont été les effets de la colonisation du Groenland sur la population inuite et sur sa culture?
Il change tout, parce que le mode de vie inuit à l'arrivée de Hans Egede, c'était une vie littorale qui est réglée par les saisons. Le peuple inuit, on va maintenant être un peu plus précis, on va les appelés les Kalaallit, donc c'est-à-dire les peuples du Groenland de l'Ouest, spécifiquement. Les Kalaallit, ils vivent au rythme des migrations animales, de la chasse aux phoques qui est toujours le pivot, la pêche, la capture d'oiseaux, un peu de gibier marin, mais c'est pas un nomadisme vague, c'est-à-dire que c'est vraiment une logistique fine, on déplace les gens, les embarcations, on reste sur donc un nomadisme, mais un nomadisme technologisé. Et ce que Hansegede va changer, c'est qu'il va les faire passer d'un peuple qui est nomade, avec des présences diffuses, à un peuple qui va petit à petit se sédentariser, tout simplement.
Il veut les rendre danois, finalement.
Il veut les rendre danois, ou en tout cas, il veut juste imposer son mode de vie, le mode de vie qu'il pense être le plus adapté à une logique culturelle, avec l'école, avec de la formation, avec effectivement aller à l'église, etc. Donc, si vous voulez, il va introduire une approche que le peuple groenlandais animiste n'avait pas du tout, puisqu'il vivait plutôt avec les éléments qu'avec des constructions humaines. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une recomposition économique, avec de plus en plus de troc, de plus en plus de dépendance. Les missionnaires vont s'adosser à des logiques commerciales un peu classiques, comme on a pu voir avec les Inuits historiquement. Et de fait, les biens européens, les outils, le métal, etc., vont prendre de plus en plus de centralité. Les peaux, les produits de chasse sont plus facilement échangeables, monétisables. C'est plus une question maintenant d'économie, on va dire, de comptoir, ou une économie qui est basée sur un nomadisme. On est maintenant dans une qualification des normes, tout simplement, de ce que veut dire vivre sur ce territoire. C'est ça que Hansegede va apporter en faisant donc de Nuuk, Kotrop, à l'époque,
oui,
un point fixe logistique, un point fixe religieux, un point fixe commercial, et qui transforme complètement la géographie humaine, donc la géopolitique en réalité du Groenland, des Kalaallit, parce que les déplacements saisonniers qui constituaient la base de la vie de la société, bah de fait, ça se reconstitue sous la forme maintenant de postes, de missions, bref, de sédentarisation.
Et les Danois ont apporté aussi des maladies, il y a eu des épidémies qui ont décimé les Inuits.
Mais absolument, le premier choc épidémiologique, comme il y a eu souvent dans les dynamiques de colonisation, c'est la variole de 1733-1734. C'est un bouleversement extrêmement brutal parce que non seulement les communautés inuites vont perdre évidemment énormément d'éléments, mais au-delà des morts, ça va désorganiser les réseaux de parenté, les réseaux familiaux, les réseaux d'apprentissage, les transmissions de savoir. On va perdre des chasseurs, on va perdre des navigateurs, on va perdre des couturiers, des gens qui de fait étaient indispensables à la société, notamment pour tenir le cycle saisonnier d'hiver. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont être importants et qui vont précipiter d'ailleurs le départ de Hansegede du territoire, puisqu'il repart en 1736, précisément pour deux raisons. D'une part, bah, malheureusement, son épouse Gertrude décède en 1735, après l'épisode épidémique. Mais surtout, Hansegede est dévasté mentalement, en tout cas c'est comme ça que c'est répercuté aujourd'hui.
Il y a un sentiment d'échec.
Alors un sentiment d'avoir tout simplement apporté quelque chose de négatif à ce peuple, pas sur le fait de l'avoir changé dans ses manières de vivre, mais très, très clairement d'avoir amené quelque chose qui de fait était peut-être le diable.
Ah oui, carrément. Est-ce que des Danois sont venus s'installer en masse au Groenland?
Non, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et de fait, le Groenland ne jouissait pas forcément non plus à la suite de ces épisodes-là d'une image très positive. Donc ça a pris effectivement du temps. Et puis ça a pris du temps également de reconstituer des modèles économiques. Quand on perd, après une épidémie telle que celle de la variole de 1733-34, autant d'éléments importants de la société, eh bien de fait, qui fait-on revenir? Quelle priorisation économique et sociétale donne-t-on? Etc. Quel type d'habitat faisons-nous évoluer également? Et comment vivre en société? C'est tout ça qui a été reconstruit dans les années qui ont suivi.
Quel était l'intérêt des Danois de venir s'installer, de mettre la main sur le Groenland? C'est la pêche? C'est une raison économique ou politique?
Alors, bon, il y a des raisons politiques, symboliques, des raisons évidemment, le missionnariat, c'est, oui, c'est assez évident, ça, c'est partout pareil, mais il y a une dimension économique qui est forte, parce qu'on l'a évoqué avec les Portugais, on pourrait l'évoquer avec les Basques, on pourrait l'évoquer même avec les Normands. Il y a de la pêche dans ces eaux-là. Il y a de la pêche de plus en plus intensifiée, et pas que au Groenland, c'est en fait dans toute la zone qui va du Groenland jusqu'au Svalbard, donc c'est-à-dire dans toute cette zone à la frontière entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique, toute cette zone qui est gelée de temps à autre durant l'année avec la banquise, et dans cette zone-là, très poissonneuse, et bien de fait, vous avez une bataille littérale pour ses ressources économiques. C'est ce qui a amené la France, par exemple, à essayer de mettre une colonie au Svalbard, qu'on a appelée la France Arctique, qui n'a pas beaucoup tenu. C'est ce qui a amené, effectivement, les Danois aussi à s'installer au Groenland. Il y a cette recherche du passage du Nord-Ouest, éventuellement. Alors, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, bien sûr, c'est une construction ultérieure, mais cette idée qu'on puisse traverser la planète par le Nord, si ça pouvait se faire à l'Est, peut-être que ça pouvait se faire à l'Ouest, et ça fait l'objet, évidemment, de décennies de recherche et d'exploration. Bref, et avec les Groenlandais, on avait un peuple qui, de fait, était capable de vivre dans cet environnement-là. Donc, qui était capable de soutenir un modèle économique avec une présence locale sédentarisée, là où, dans l'ensemble du reste de la région, c'était des Européens qui essayaient de vivre là, avec des bateaux. C'était assez compliqué, sans peuple local, pour véritablement prendre un point d'appui.
Merci, Mikko Blujon-Mered. Dans le prochain épisode, nous parlerons des États-Unis qui, depuis très longtemps, depuis le 19e siècle, ont des vues sur le Groenland.